savoir, Louise Touret.
Bienvenue dans le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, nous parlons de cinéma.
Depuis longtemps, on s'est servi du cinéma pour distraire ou instruire en les amusant les enfants. Ce qui est nouveau, c'est l'emploi systématique de ces deux auxiliaires, non plus comme moyen de détente ou d'amusement, comme procédé pédagogique d'appoint, mais bien comme aides essentielles, indispensables pour toutes les disciplines, tous les degrés, tous les âges. Il ne saurait être question d'ailleurs d'isoler cinéma et projection fixe. Ils font partie d'un ensemble de moyens qu'on est convenu d'appeler audiovisuels et dont il importe d'étudier les possibilités et les conditions d'emploi. L'emploi de ces aides audiovisuelles est tout à fait indiqué dans un enseignement moderne. Il serait inconcevable qu'on négligeât ce pouvoir merveilleux et parfois tyrannique de la radio et du cinéma, par exemple, et qu'on ne cherchât pas à l'adapter aux besoins de la classe.
Ça, c'était en 1951. Qu'en est-il en 2019? Les amoureux du cinéma savent combien voir des films ouvre l'œil et l'esprit. Et c'est peut-être le cas, d'ailleurs, à quelques mètres des parades de tapis rouges pour les spectateurs des longs-métrages présentés au Festival de Cannes, festival qui s'est ouvert mardi. Dès lors, l'éducation doit-elle s'emparer du cinéma? Et pourquoi faire? Pour faire connaître un certain patrimoine artistique, permettre à tous de fréquenter de grandes œuvres, pour fabriquer des images et des films, pourquoi pas, et éduquer l'esprit critique des enfants et des adolescents. Il apparaît que le cinéma a beaucoup à nous dire, à nous apprendre, à l'heure où tant d'images se donnent à voir, partout, tout le temps, celles des fictions que nous regardons, celles qui nous informent, celles des écrans qui surgissent dans les espaces publics pour y faire défiler des publicités, ou encore celles que nous voyons et faisons circuler sur les réseaux sociaux. Alors qu'aurait encore à nous apprendre le cinéma dans ce monde et de ce monde saturé de messages, éléments de réponse avec nos invités. Laurent Canté, réalisateur qui fut Palme d'Or à Cannes en 2008, Carole Desbara, spécialiste de l'éducation par le cinéma, et Julien Neutre du Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée. Être et savoir, c'est une émission préparée avec Avril Ventura, réalisée cette semaine par Thomas Jost, avec Philippe Baudouin. Alexandre Dang est à la prise de son. Et notre leçon de chose, comme chaque semaine en fin d'émission. Le combat que je trace est celui de ma mère. Abdellah Taïa, auteur de La vie lente, au seuil, revient sur son enfance très pauvre au Maroc. Une enfance illuminée par les films égyptiens. Voilà qui rejoindra notre sujet du jour. Et des grandes sœurs et frères idolâtrés comme des stars de cinéma. La leçon de chose est signée Sophie Bobert, évidemment.
J'ai donc vu tous ces films qui m'ont fait vraiment aimer le cinéma à la folie, je veux dire, au point de sécher régulièrement les cours pour aller voir des films l'après-midi et même le matin dans les petits cinémas des boulevards qui ouvraient le matin. Et je ne savais pas au début si je serais critique ou cinéaste, mais enfin, c'était vraiment autour de cela que ça tournait, étant donné que avant j'avais pensé que plus tard j'écrirais des romans, et puis je me suis dit que je serais critique de cinéma, et peu à peu, je pensais qu'il faudrait mieux faire des films. Et je pense que cette longue fréquentation avec les films constitue quand même un apprentissage.
Un apprentissage par le cinéma. Bon, en faisant l'école buissonnière, ce qu'on ne conseillera pas forcément. Est-ce que cette archive, qui date de 1961, François Truffaut est alors tout jeune, il a 29 ans, il répond à un entretien pour la Cinémathèque Royale de Belgique. Est-ce que ces mots, Laurent Canté, vous qui êtes réalisateur, et vous, dont l'œuvre parle aussi beaucoup d'éducation, comme celle de Truffaut, est-ce que ces mots vous touchent?
Ah, il me touche, même si je n'ai pas eu ce parcours-là. D'abord parce que j'habitais dans un petit village et que faire l'école buissonnière pour aller au cinéma était très difficile. Mais c'est vrai que par contre, j'ai eu la chance d'être adolescent ou même enfant à une époque où la télévision faisait un travail qu'elle ne fait plus aujourd'hui, qui était de montrer des films et de montrer des grands films, des moins grands, et surtout donner une idée de la diversité de ce que pouvait être le cinéma. Et moi, je me rappelle avoir découvert sur une télévision noir et blanc Le Mépris de Godard. je devais avoir 11-12 ans. Et je me suis dit, tiens, ça peut être ça le cinéma. Et puis, évidemment, quand j'ai été un peu plus âgé, je l'ai revu sur un grand écran en couleur et je me suis dit que finalement, heureusement que j'avais découvert à l'époque où j'avais découvert, parce que d'un seul coup, il y a eu une curiosité et un désir qui a été éveillé. Et je pense que une des grandes missions qu'on a tous là autour de cette table, c'est d'éveiller ce désir-là.
Et cette mission, vous l'assumez aussi à travers la présidence d'une association, Passeurs d'images. Avec vous, la présidente d'une autre association, vice-présidente, Carole Desbarra. Bonjour.
Bonjour.
Cette association, c'est Les Enfants du Cinéma et vous êtes membre du conseil de rédaction de la revue Esprit. Cet amour du cinéma qui est aussi le vôtre, est-ce qu'il s'est forgé dans l'enfance et comment?
Ah, mais moi, j'étais très, très privilégiée. J'avais un oncle qui avait la responsabilité d'un cinéma qui s'appelait Le Triomphe à Casablanca, que Abdella Taïa, que vous allez recevoir, a fréquenté. Nous en sommes parlé pendant les interstices de l'Avance sur recette. Il y était aussi. Et il me racontait son enfance cinéphile et on la comparait. On n'allait pas dans les mêmes quartiers, mais on voyait les mêmes films. Et cet oncle rapportait le dimanche des bobines de films dans le garage de sa maison, et nous voyons des films qui me plaisaient, mais je ne savais pas que c'était des Douglas Sirk, des Ward Hawks, et ma cinéphile s'est faite comme ça.
Julien Neutre, directeur de la création des territoires et des publics au CNC. Vous aussi, vous êtes un cinéphile, vous êtes historien de formation. Alors, deux questions, comment votre cinéphilie personnelle s'est forgée? Et aujourd'hui, vous relancez avec le CNC les ciné-clubs.
Alors, ma cinéphilie, on a chacun une porte d'entrée à un parcours différent, mais elle est aussi familiale. Moi, j'avais la chance d'avoir un grand frère qui était opérateur dans une salle de cinéma, qui faisait lui-même des courts-métrages et qui m'a fait tomber dedans. Tout petit, on faisait des concours à celui qui voyait le plus de films, d'ailleurs. C'était un peu un jeu entre nous. Et ensuite, comme vous l'avez dit, en effet, j'ai été historien, mais sur le cinéma, sur les sources cinématographiques. Je travaille notamment sur le cinéma italien. Et donc, quand j'ai rejoint la fonction publique, évidemment, travailler pour le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée était un désir ardent de travailler pour cet écosystème et notamment pour tous ces enjeux, évidemment, d'éducation à l'image. L'éducation à l'image, aujourd'hui, en effet, notre enjeu, c'est de démultiplier ces portes d'entrée, ces points d'accès pour créer ce désir, ce goût du cinéma.
Parce que dans cet écosystème que serait le CNC, qui permet aux films français de se faire grâce des commissions d'avance sur recette, un système de financement. Bon, c'est pas le sujet du jour, et puis ce serait un petit peu long de le décrire. Il y a aussi tout un volet éducatif. C'est très important. Ça constitue quelle partie de l'activité du CNC, Julien Neutre?
Alors, c'est devenu une priorité. Évidemment, on accompagne toutes les œuvres à toutes les étapes de leur création, mais également, évidemment, une fois que les œuvres sont faites, il faut les faire circuler et les diffuser le plus possible, et notamment auprès du jeune public. Et ces actions d'éducation à l'image, historiquement, elles ont été créées il y a une trentaine d'années sur une initiative à la fois du CNC, des pouvoirs publics, des salles de cinéma et des cinéastes. C'était Costa Gavras qui notamment en avait pris l'initiative de créer ce concept de classe au cinéma, donc d'emmener les élèves découvrir des films dans la salle de cinéma. Ça a 30 ans et ça permet de toucher aujourd'hui à peu près 14% d'une classe d'âge. Donc environ 1,8 million d'élèves chaque année bénéficient de ces dispositifs. Et ça, c'est fondamental. Mais au-delà de ça, à partir de là, notre objectif aujourd'hui, c'est de toucher 100% d'une classe d'âge. Donc d'aller chercher les jeunes partout dans leur temps de vie et d'accompagner tout leur parcours en essayant de démultiplier les occasions de rencontre avec le cinéma. Et notamment les ciné-clubs, comme vous le disiez. Alors moi, j'ai fait partie d'une génération où, malheureusement, les ciné-clubs dans les lycées n'existaient plus. Dans les années 60, quand Truffaut parle, il y a 10 000 ciné-clubs en France. C'est un mouvement qui est né dans les années 20 et qui a connu son apogée dans les années 60 et 70. Moi, quand je suis lycéen, ça n'existe plus dans mon lycée, même dans les écoles, quelques écoles encore et universités qui en ont, mais c'était vraiment très réduit. Et donc un des enjeux pour nous, ça a été aussi de relancer ces ciné-clubs, et on s'est servi de jeunes du service civique. Donc on a 850 jeunes du service civique aujourd'hui, dont la mission, c'est d'aller parler aux jeunes directement, de pair à pair, de manière horizontale, de relancer cette tradition du débat, de la projection d'un film et d'un débat dans les lycées et de suivre et de relancer ce mouvement.
Deux choses m'intéressent dans cette approche, et on va parler de toutes les autres approches d'éducation au cinéma, c'est la salle obscure, la grande salle, et puis le type de film qu'on va être amené à voir à travers et ces ciné-clubs et les sorties au cinéma grâce à des associations. Laurent Cantet, c'est ça qui est important aussi. Vous dites que vous avez regardé beaucoup de films aussi à la télévision.
Oui, mais j'ai aussi vu beaucoup de films au cinéma dès que je l'ai pu. Moi, c'est sûr que, enfin, en tant que cinéaste en plus, l'endroit où j'ai envie qu'on voit mes films, c'est avant tout dans une salle obscure, parce que d'abord il y a une intimité avec l'image qui est très très différente. Ensuite, parce qu'on le voit en groupe et que forcément ça déclenche des réactions plus ou moins contrôlées d'ailleurs de communion autour d'un film. Et puis parce que c'est peut-être là, je vais peut-être paraître très réactionnaire, mais j'ai l'impression que quand on témoigne d'une envie au point de décider qu'on va sortir de chez soi et qu'on va aller payer une salle de cinéma pour voir un film, il y a quelque chose de très volontaire qui pour moi est essentiel aussi.
Mais pourtant, dans une sortie, on décide pas quand on est élève, on nous emmène, on nous emporte avec une classe.
Oui, mais alors là, moi, je pense que c'est très bien d'amorcer les pompes. Je pense qu'on a besoin moi je me rappelle de mes enfants, ma fille en maternelle à qui on annonce qu'elle va aller voir un film le lendemain et ils en parlent entre eux et elle arrive en me disant oh, ça va être un film en noir et blanc encore. Et voilà, je lui dis, attends, mais t'en as vu d'autres, des films noir et blanc avec moi? Ouais, mais... Et puis le lendemain, elle avait vu un Buster Keaton, et elle est revenue tellement ravie qu'il a fallu lui en montrer d'autres. Et je pense que voilà, là, ce jour-là, la pompe était amorcée, quoi.
Et pourtant, on parle de la fille d'un cinéaste, et qui plus est, d'un cinéaste qui a obtenu la Palme d'Or. Carole Desbarra, même question, sur à la fois cet espace si particulier que serait la salle de cinéma, qu'on peut fréquenter aussi collectivement avec une classe et avec son enseignant, et puis sur les films qui peuvent être choisis, qu'on va montrer à ses élèves, ou des films de ciné-club qui ne sont pas les mêmes qu'on irait voir seul pendant l'enfance ou l'adolescence.
Alors, c'est deux grosses questions très différentes. La première, sur la salle, c'est vrai que Laurent a dit beaucoup de choses. C'est un lieu de retrait. On ferme la porte derrière soi. Il y a des portes battantes. Le monde reste à l'extérieur. On est dans une coque sombre où on est dans une communauté éphémère qui va se dissoudre dès que la lumière va se rallumer. Et on va sentir les vibrations. Ça, on l'a tous senti au cinéma. On a tous senti quand une salle marchait pas, était inquiète, sans aller jusqu'aux salles de mon enfance où nous, on hurlait nos émotions, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Il y a une émotion tout à fait spécifique que Malraux a très, très bien cernée quand il disait que la différence avec le théâtre et le cinéma, c'est que au cinéma, la tête de l'acteur était bien plus grande que la nôtre. Et cette idée de bien plus grand à l'image, mais aussi de tellement plus important au son, il faut pas négliger l'importance du son dans une salle. Dans un home movie, vous avez une qualité d'image, c'est vrai. La matière du son, vous ne la ressentirez pas de la même manière. Il y a quelque chose de tout à fait particulier à l'œuvre d'art. C'est son milieu normal. Maintenant, il faut regarder les choses en face. Le public de cinéma a changé. Dans les salles d'art et essai, on voit des gens aux cheveux gris. On voit pas beaucoup de jeunes. C'est très dommage. Quand on voit des jeunes dans les salles d'art et essai, c'est que justement, il y a des enseignants qui les ont emmenés et qui, alors, les ont peut-être un petit peu traînés au début. Parfois, et souvent même, ça se passe comme le décrivait Laurent Cantet, c'est-à-dire que devant la force de ce qui se passe sur un grand écran, et si le film n'a pas été trop mal choisi non plus, hein, vous n'allez pas montrer l'année dernière à Marianne Bad à des sixièmes, il se peut que justement il y ait un enchantement. Et c'est ça que cherchent tous ceux, et ici autour de la table, on le fait tous à notre manière, qui cherchons à montrer des films aux enfants dans l'éducation à l'image. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est de provoquer les conditions de la rencontre. Après, c'est individu par individu. Un film fait flasher un enfant ou n'intéresse pas l'autre. Ça,
c'est bien la logique de l'émotion et puis de la rencontre avec une œuvre d'art. Là, de quoi parle-t-on finalement? De transmission d'un patrimoine artistique qu'il faut connaître comme on doit connaître la peinture, la littérature. Julien Neutre.
Alors ça fait partie de l'apprentissage évidemment, puisque si on veut comprendre les images, comprendre l'intention de celui qui a filmé, il faut comprendre aussi ses références, comprendre les images qui ont pu aussi les inspirer. Donc ce n'est absolument pas contradictoire. Quand on travaille sur la création contemporaine, on est obligé aussi de se référer aux images du passé, d'ailleurs qu'elles soient cinématographiques ou pas. L'héritage iconographique, il est plus large que le seul cinéma, hein. C'est évidemment la peinture, toutes les images, la presse, toutes les images aujourd'hui qu'on reçoit, et Dieu sait qu'il y en a. Et donc c'est toujours important de se resituer dans un environnement plus large.
On va voir aussi comment aiguiser son œil, alors grâce au CNC, puisque le CNC a eu la gentillesse de m'inviter à la présentation de films réalisés par des élèves. Le dispositif s'appelle Les Enfants des Lumières. J'ai rencontré une classe de 5e d'un collège que je connais bien, le collège Clémenceau à Paris. J'ai interviewé Stella, Agère, Aminata, Kumba, Yaye, ça c'est les élèves, et leur enseignante Laura Guiran.
Moi je joue dedans. Et là-bas, il y a Kumba et Yaye.
J'ai cadré et on voit un peu en cours au début.
Aminata, toi, tu as fait quoi dans le film?
J'ai joué un élève. Après, j'ai fait différents métiers.
En fait, on a décidé de prendre une classe de 5e et de les engager dans ce projet. Donc, le principe, c'est qu'ils doivent écrire, réaliser et du coup tourner leur film. Donc ils jouent dedans, ils l'ont écrit au départ et du coup ils ont fait ça pendant toute l'année dernière après avoir eu pas mal d'ateliers de pratique et de découverte du cinéma avec un réalisateur. En parallèle, ils ont vu plein de films sur les thématiques qui nous semblaient intéressantes par rapport à leur projet. Et du coup après ils se sont lancés, en mai ils ont tourné. Et on a eu la possibilité, en fait, ils ont réalisé un court-métrage muet. Et donc, on a eu la possibilité d'être associé à une classe qui a un dispositif orchestre à l'école qui a écrit et réalisé la musique de notre film. Donc, on va l'entendre, nous, pour la première fois en direct ce soir sur les images.
Ça a commencé l'année dernière. Ça a été sur 2 ans. On a d'abord rencontré le réalisateur avec qui on a fait le film. On a appris à écrire des histoires, des petits scénarios. Puis au fur et à mesure, on a commencé à écrire le scénario final. On a appris à nous servir du matériel de tournage. Et puis en fait, on a tourné.
L'intérêt premier, ça a été de se rendre compte déjà de ce que c'est l'image et de qu'est-ce qu'il y a derrière. Et du coup, ils se sont rendus compte en fait de tout ce qu'il fallait mettre en œuvre déjà pour filmer. Le fait de reprendre 1000 fois les scènes, etc. Et puis de comprendre comment c'était pensé, comment ça s'écrivait aussi les scènes. Et puis, ils ont découvert plein de films qu'ils n'auraient jamais vus non plus. Et on s'est rendu compte que, en fait, il y avait plein de trucs, même vieux, qui les amusaient beaucoup. Et donc, ils ont développé beaucoup leur esprit critique aussi sur qu'est-ce que c'est l'intention derrière, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et ils se sont retrouvés à être vraiment à développer des compétences assez hallucinantes en termes de positionnement et puis voilà, parler de ses émotions, parler de ce qu'ils ont compris, perçu, des enjeux. Et puis en fait, c'est une classe qui est restée la même pendant 2 ans, donc il y a eu un effet de cohésion et un effet de groupe qui a été pour le coup vraiment génial, parce qu'ils sont d'une bienveillance et d'une écoute mutuelle qui est assez hallucinante. Donc ils ont tous vraiment participé au projet de façon... chacun a apporté sa patte, quel que soit l'élève au départ. Donc c'était vraiment, vraiment un chouette projet pour les gamins, pour le coup.
Et ça rejaillit sur ce qu'on fait en classe, ma meilleure.
Évidemment, ouais, ça rejaillit incontestablement, parce qu'en termes de... En termes d'écrit, en termes d'esprit critique, en termes de prise de parole orale, et puis en termes d'écoute aussi et de respect de l'autre, ça a été hyper bénéfique.
Ça m'a permis de découvrir comment ils font les acteurs, combien de fois ils jouent et tout.
Et comment fonctionne un film? Est-ce que tu t'imaginais que c'était si long et compliqué de réaliser un film?
Non, je pensais que c'était facile, mais depuis que je l'ai fait, je voulais refaire encore plusieurs fois. Et ça m'a donné une idée, hein, franchement.
Quelle idée?
Une idée de peut-être être actrice ou quelque chose comme ça.
Et même enthousiasme ce soir-là du côté de Bruno Sevestre, qui est documentariste et qui a donc travaillé avec une autre classe, une classe de SPVL, c'est le service à la personne, une classe du lycée Nadia et Fernand Léger d'Argenteuil.
Ce projet est un véritable cadeau. Ça s'appelle les Enfants des Lumières et je peux vous dire déjà d'emblée qu'ils ont illuminé mes parts d'ombre. C'est vraiment, c'est pas un jeu de mots comme ça qui serait facile, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. On a travaillé ensemble un peu plus d'un an et demi. C'est une classe qui est composée essentiellement de filles et elles ont 14, 15, 16 ans et elles se sont révélées à elles-mêmes. J'aurais dit qu'on allait faire du cinéma, mais un autre cinéma qui, moi, m'affectionne, qui est le cinéma de l'écoute. Le documentaire, c'est le cinéma de l'écoute. On a travaillé sur les différences avec le reportage, avec le documentaire, sur une sémantique. Et aujourd'hui, je crois qu'elles sont à même de faire la différence entre un reportage, un documentaire, une narration, qu'est-ce que ça veut dire, au-delà du fait qu'évidemment, on a fait de la mise en scène sur la partie fiction. Et là, je crois qu'elles, maintenant, elles connaissent le langage, elles savent comment se positionner, elles savent ce que c'est qu'un clap, elles savent que c'est un découpage, un dialogue, ça a pu être efficace, oui.
Une très belle soirée avec beaucoup de satisfaction de la part des participants. Vous qui êtes un peu en dehors de tout ça, Laurent Canté, comment vous entendez ces propos d'enseignants, d'élèves et puis d'un de vos collègues réalisateurs ?
Je les comprends d'autant plus facilement que je suis quelqu'un qui, je pense, est plus intuitif que théorique et que le faire est quelque chose d'essentiel pour moi. J'ai l'impression que quand on tâtonne, quand on essaye des choses, quand on se rend compte que ça ne marche pas, que du coup on se réfère à quelque chose qui marche et qui a été fait par d'autres et qu'on comprend d'un coup une charnière dans une narration par exemple, ça donne envie de regarder les films. Ça donne envie et puis aussi peut-être de les regarder différemment, c'est-à-dire les regarder en spectateur actif. C'est-à-dire, moi je pense qu'on a deux façons de regarder les films. Moi ça m'arrive parfois de me retrouver devant un film et de juste me laisser emporter par un rythme, par une émotion, par une envie de rire. Et puis que c'est pas, il y a aussi par moment une envie d'aller regarder d'un peu plus près comment une idée m'est transmise, comment une idée, une question va m'être posée qui va m'aider à peut-être grandir un peu après. Enfin, et ces deux approches là, je pense qu'elles peuvent être importantes et que le fait de mettre les mains dans le cambouis permet en tous les cas de les appréhender.
Carole Desbarra, sur ce langage cinématographique et ce langage des images qui peut s'appréhender à travers un travail plus pratique et pas seulement le fait d'être spectateur, comment...
Quand on est, si je reprends la terminologie de Laurent, un spectateur actif, c'est une pratique.
Quand vous êtes devant un film... C'est ce que vous
dites Truffaut. Oui. Oui, tout à fait. Suivons-le là-dessus, vraiment. Ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai que quand vous mettez les mains dans le cambouis, c'est autre chose. Je vais vous dire, ça se démontre du CP à la FEMIS. La première année de la FEMIS, vous avez les élèves qui, quelle que soit leur section, qui veuillent être réalisateurs, ingénieurs du son...
Donc la FEMIS, c'est l'école du cinéma.
Hein. Oui, l'École nationale du cinéma. D'après la CETER, le cinéaste, la cinquième école du monde...
Donc, j'y suis tout de même.
Je peux absolument m'en vanter de ça. J'y suis pour rien. Mais cette première année, elle voit les élèves tourner à tous les postes. Et quand vous avez tenu une perche pendant longtemps pour un acteur qui a du mal à dire un texte, si ensuite vous devenez réalisateur, il y a quelque chose, cette pratique, dont on peut espérer qu'elle va rester. Si vous avez été monteur et que vous avez sacrifié des images qui ont été dures à tourner, ensuite dans la salle de montage, quelque chose va rester. Donc, en fait, on peut espérer que pour les enfants, on ne veut pas en faire des cinéastes. Quand au sein de l'école ou du collège ou du lycée, on leur fait faire des petits films, on ne cherche pas à en faire des artistes. On cherche justement à leur faire connaître l'expérience de l'intérieur, parce que, comme l'a dit Laurent Cantet, ils ne verront plus les films de la même manière. C'est ça. Et donc après, il ne faut pas espérer faire Bollywood dans la salle de cours. Hein. Ce n'est pas possible, ça. Mais pour ne pas faire ça, il faut former les enseignants. Il faut donner, comme l'enseignante qu'on a entendue en témoigner magnifiquement, les moyens d'accompagner les enfants. Ça veut dire de ne pas faire leurs films. Parce que si les enseignants ont envie de faire des films, ils vont faire les films des mômes. Et ça, c'est pas ce qu'on cherche. Et très précisément, aider les enseignants à les accompagner avec des intervenants professionnels. C'était le cas, là. Là, on est dans une configuration magnifique, hein. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que les enfants soient bien sensibilisés au cinéma. Alors là, on est dans des belles expériences qui coûtent très cher.
Alors, ces expériences ont certes un prix. C'est vrai que comme pour beaucoup d'expériences d'enseignement artistique, on entend un enthousiasme de la part des élèves, mais aussi des enseignants qui a été restitué dans ce reportage. Mais ça peut concerner la littérature, ça peut concerner les arts plastiques. Là, c'est le cinéma et le cinéma, Julien Neutre, qui est aussi aujourd'hui, d'après ce que je comprends de vos projets au CNC, censé éduquer à l'image en général, à l'esprit critique. Pourquoi est-ce que l'image cinématographique pourrait avoir cette portée, sachant que les images qui circulent autour de nous sont très diverses?
Quand on regarde un film ou quand on pratique et qu'on essaye soi-même de faire un film, on est obligé de se poser la question, la manière dont celui qui a filmé s'est lui-même posé la question, comment il allait filmer ce qui lui était donné à voir. Et ça, c'est clé, c'est apprendre à voir. Comprendre qu'il y a une intention, comprendre que c'est une construction, donc un processus de création, et que c'est pas un enregistrement, c'est pas une image donnée qu'on recevrait de manière passive. Et donc c'est ça qu'il faut déclencher, cette compréhension-là qui est clé et qui permet ensuite, pour le citoyen, de comprendre que toutes les images ont une intentionnalité, c'est-à-dire pose des questions aussi éthiques. Et ça, c'est clé dans le monde d'images que l'on vit, et notamment pour les plus jeunes.
Donc l'enjeu de 2019, il est plus fort que l'enjeu des années 80 ou des années 70, parce qu'il y a plus d'images.
Aujourd'hui, on apprend à lire et à écrire, mais on n'apprend pas à lire et à écrire les images. Et c'était tout l'enjeu qu'on a voulu résoudre avec l'atelier cinéma, notamment, et l'enjeu de l'objectif d'atteindre 100% d'une classe d'âge touchée par des actions d'éducation à l'image. C'est l'objectif que nous a donné le ministre de la Culture, Franck Riester, ma présidente, Frédéric Bredin. Et évidemment, il y a l'opération Enfant des Lumières, où on accompagne une classe pendant 2 ans, sur une pratique donc très intensive, accompagnée par des professionnels, mais avec un dispositif comme les Enfants des Lumières, on touche déjà 350 élèves, ce qui est déjà formidable, mais on peut pas toucher 100% d'une classe d'âge. Et donc, pour résoudre ça, on a voulu démultiplier, cloner, si je puis dire, les animateurs et les professionnels qui permettent d'accompagner les jeunes dans la création d'un petit film à travers cet atelier cinéma qui est un jeu qui permet aux enseignants...
Parce que je montre la boîte du jeu, ouais, donc que nos auditeurs
c'est une vraie boîte de jeu
pas.
Qui permet à travers 5 activités, toutes les activités de création et de construction d'une œuvre, de faire comprendre ce qu'est un scénario, ce qu'est un cadrage, un montage, constituer une équipe de tournage et tourner aussi un film via une application, notamment sur tablette, qui permet de bonnes conditions et des conditions accompagnées de faire un petit film en classe, et l'enseignant accompagné, alors il y a tout un plan, on va faire tout un plan de formation pour accompagner les enseignants, mais l'enjeu c'est d'essayer de mettre à la disposition, et ça a été tout l'enjeu de construction de ce jeu, un outil le plus simple possible, et donc il y a avec le livret de l'enseignant, la prise en main est facilitée et on peut accompagner les enfants à chaque étape de la création d'un petit film.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvère, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ses 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour, blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bas. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume à mercredi prochain. « Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, 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 Gary Cooper s'approche du ravin d'enfer. Fais attention pauvre crétin, car Alan Ladd n'est pas très loin. À 500 mètres il loge une balle dans un crouton de pain. Gar, 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 pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants.
Boris vient parce qu'on avait envie de l'écouter, parce que cette chanson s'appelle Le Cinématographe, parce que elle parle aussi d'une certaine nostalgie du cinéma qui est toujours un peu là quand on parle de cinéma et d'éducation, parce qu'on se rappelle, comme le fait Boris Vian dans la chanson Nos jeunes années, devant des films, puisqu'aujourd'hui, dans Être et Savoir sur France Culture, nous parlons d'éducation à l'image par le cinéma, un sujet évidemment d'actualité. Alors nous parlions de la manière dont les enseignants peuvent s'emparer de l'éducation à l'image en faisant réaliser des petits films, y compris en classe à leurs élèves, par exemple à l'aide d'un kit qui s'appelle l'atelier cinéma, qui est donc diffusé par le CNC, l'objectif étant d'atteindre de plus en plus d'élèves. Carole Desbarra, vous qui êtes une spécialiste en quelque sorte de l'éducation au cinéma et cinéphile aussi.
Oui, c'est sûr. L'atelier a été largement distribué, ça c'est sûr, et ce sera d'ailleurs très très intéressant dans les années qui viennent de savoir comment il a été utilisé dans les classes. Est-ce que oui ou non les enseignants s'en emparent ? Nous avions, avec les enfants de cinéma, c'était l'an dernier, au Rencontre nationale des enfants de cinéma, un atelier, justement avec des personnes du CNC qui étaient venues montrer comment ça marchait. Et ça marche bien. C'est-à-dire qu'en fait, les membres du petit groupe qui s'était constitué autour d'atelier avaient trouvé que c'était clair, efficace, pédagogique. La seule chose, c'est que c'était des gens qui étaient déjà formés. Donc, moi, je suis très heureuse d'entendre Julien Neutre dire que ça va être accompagné de formation. Parce que c'était le défaut de cette boîte jeu, c'était qu'elle arrivait, elle était prévue comme ça au départ, sans formation supplémentaire. Or, c'est de ça que je voudrais surtout parler, c'est pas de l'atelier. C'est de la façon dont les enseignants, qui sont des gens, à mon avis, largement scrupuleux, ils savent très bien qu'ils sont pas formés au cinéma. Ils savent très bien qu'ils sont, pour le mieux, cinéphiles. Mais dans leurs études, sauf s'ils ont été à collège au cinéma, ou ils ont vu des films en lycée, mais ils n'ont pas eu l'occasion de travailler le cinéma. Et donc, ils se posent des questions énormes sur comment je fais avec mes élèves. Comment je fais pour ne pas simplement montrer le film et m'arrêter là, ce qui est quand même une catastrophe majeure, surtout s'il y a eu quelque chose d'un petit peu traumatique dedans, là, ça devient extrêmement difficile. Et c'est là que la formation intervient. Parce que il n'y a pas besoin que ce soit une formation très très longue, mais il faut aider les enseignants à trouver des pistes sur comment on fait, combien de fois on voit le film, quels outils peuvent nous aider, de manière à ce qu'eux-mêmes soient un peu préparés par rapport au fait de travailler avec les enfants.
Pour que ce ne soit pas un loisir, on a fait cette année une émission avec un chercheur qui s'appelle Julien Lenéter et qui a travaillé, lui, sur la sortie au musée. Et on voit que ni les enseignants ni les élèves, parfois, n'arrivent à comprendre le but, au fond, de cette sortie. Alors, est-ce qu'on doit dire clairement aux élèves, Julien Neutre, qu'ils font un travail d'éducation à l'image ? Est-ce que tout ça, ça doit être formalisé en tant que tel ?
Quand c'est dans le cadre de l'école, il n'y a pas à le cacher. D'ailleurs, ça rentre. Et l'atelier cinéma, on a fait un gros travail avec tous nos partenaires de l'éducation nationale pour montrer aux enseignants aussi que tous les enseignements fondamentaux qu'ils allaient couvrir grâce à ce jeu étaient des enseignements fondamentaux qui étaient dans leur programme. Donc on est bien dans de l'éducation et l'éducation la plus fondamentale qui soit. Ensuite, évidemment, l'école est un levier fantastique pour l'éducation à l'image, mais on peut faire de l'éducation à l'image sans le dire, dans tous les temps du jeune, donc dans le temps périscolaire évidemment, dans le temps extrascolaire et même là où il regarde des images. Donc nous, on cherche à expérimenter aussi les choses, notamment avec des vidéastes du web, comme on les appelle les youtubeurs, et on fait un travail de passeur avec eux, parce que c'est important aussi de faire de l'éducation à l'image qui ne s'affiche pas comme telle, à travers les images que regardent aussi les jeunes.
Parce que YouTube, c'est évidemment une dimension importante de la vie culturelle, en tout cas des loisirs, des jeunes, avec une codification très particulière des images et un langage différent, une grammaire propre à ce style d'expression. Laurent Canté, je voulais vous poser la question du public, parce que finalement, il faut aussi apprendre aux enfants, aux jeunes, à regarder tout. Les styles de cinéma, est-ce que la mission n'est pas aussi là, c'est-à-dire des films, déjà des films peut-être français, des films qui ne sont pas que des films pour se distraire ou en tout cas se distraire d'une certaine façon, des films d'action ou des films drôles, et puis des films qui viennent d'un peu partout.
Je veux dire, déjà en France, on a un grand privilège qui est d'avoir un circuit de salles de combien de 6000 salles,
6000 écrans, ouais.
6000 écrans qui nous montrent quand même des films venus du monde entier, ce qui n'est pas toujours le cas à l'étranger. Moi, je vois quand je rencontre mes collègues étrangers dans des festivals où ils sont tous très très jaloux de la situation française à ce niveau-là. Donc cette proposition, elle existe. Et il faut juste donner encore une fois une impulsion pour ça. Et moi, ce qui me semble par rapport à vous parliez de d'internet et de l'avalanche d'images à laquelle on est confronté aujourd'hui. Moi, il me semble que justement le cinéma et l'éducation à l'image plus largement doit être presque un outil de résistance à des images qui ne sont pas toujours pensées ou qui sont pensées dans un sens de publicité ou de propagande ou de commerce.
Pour pouvoir penser des images qui ne nous engagent pas à le faire.
Pour pouvoir penser des images qui ne nous engagent pas à le faire, exactement. Et moi, je lisais l'autre jour un article dans Le Monde qui décrivait la force des algorithmes de recommandations. Et c'est terrifiant, c'est-à-dire que une chaîne comme Netflix vous donne la liste des films que vous devez voir. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que en fonction des notes que des morceaux musicaux obtiennent, ou de manière plus ou moins fausse d'ailleurs, on augmente de 10% l'achat de ce titre-là. Je suis pas clair du tout, mais
je crois qu'on comprend assez bien le système de recommandation par algorithme, qui se base tout simplement sur les choses qu'on a déjà regardées ou sur ce que les gens qui seraient censés nous ressembler ont regardé.
Et j'irais même plus loin sur les films ou sur les objets qu'on veut nous faire regarder.
Mais par rapport à ça, le Carole cinéma Desbarat. Est très important parce que c'est une façon positive de faire que les enfants et les jeunes, le jeune public, s'approprient des outils, qu'ils aient une conscience dans leur regard, sans passer par le fait qu'on leur dirait « ça n'est pas bien ». Moi, je fais partie de la génération qui s'est plantée lamentablement dans les années 80, 70, 80, en voulant expliquer aux enfants que la publicité, ça n'était pas bien. Et donc, on arrivait devant des enfants qui adoraient ça, et on leur dit « mais regardez, on essaie de vous manipuler, etc. » C'était d'une naïveté confondante. Depuis, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup avancé. Et moi, je suis d'autant plus persuadée que montrer des beaux films aux enfants, ça leur permet de développer leur esprit critique. Et je fais confiance aux enfants et aux jeunes publics pour passer cet esprit critique de ces images de Fritz Lang ou de Kiarostami ou de Buster Keaton jusqu'à des images qui leur sont montrées sur des chaînes ou télé ou web et sur lesquels il y a vraiment fort à dire négativement, et ils le feront tout seuls s'ils ont été formés. C'est une formation essentielle, mais qui peut se faire par le plaisir.
Et que dire du Festival de Cannes, qui est un moment festif mais aussi médiatique, dont on entend parler dans les informations et un petit peu partout. Est-ce que c'est un moment où on arrive à parler aussi de cinéma exigeant, avec une certaine forme de glamour qui pourrait attirer aussi le grand public. Laurent Cantet, vous qui avez été Palme d'Or, est-ce qu'il y aurait une part là, avec un, vous qui avez été Palme d'Or avec un film qui parlait d'ailleurs d'éducation entre les murs, est-ce que le Festival de Cannes permet-il de faire accéder un plus large public à un cinéma plus large, plus exigeant, plus divers?
En tous les cas, il est sûr que pendant 15 jours, on va plus parler de cinéma en France qu'on en parle dans tout le reste de l'année. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Après, il y a des, voilà, effectivement, là aussi, quelque chose de, à la fois de très exigeant dans la programmation et puis tout un folklore qui l'entoure, toute une, presque une tradition qui entoure le Festival de Cannes, à laquelle moi je suis pas très sensible, mais qui doit malgré tout avoir son rôle dans le fait, voilà, déjà qu'on en parle.
Mais quand on vous a vu, vous, avec la troupe d'élèves d'Entre les Murs, avec ces jeunes gens de Bergson hein, à Paris, c'était quel...
Non, c'était Françoise Dolto, le collège Françoise Dolto.
Avec les élèves du collège Françoise Dolto de Paris, dans cet environnement cannois, enfin, voilà, ça crée aussi des images et des rencontres qui sont en elles-mêmes spectaculaires.
Ben, j'espère, oui. Enfin, pour moi, ça l'a été évidemment, pour eux aussi. Et je pense qu'il y avait quelque chose qui moi m'a énormément touché et qui était presque ce qui m'a le plus ému au moment où on est montés tous sur scène pour recevoir cette Palme d'Or. Ça a été l'idée que cette troupe là représentait une image de la France qui me semblait être plus juste que celle que justement nous donne à voir souvent les publicités et les choses plus formatées que le cinéma, quoi.
Tu viens neutre sur le Festival de Cannes?
Oui, on a la chance, avec le réseau de salles que rappelait Laurent, le Festival de Cannes, de permettre à des films aussi exigeants que La Palme d'Or de l'année dernière, par exemple, Une affaire de famille de Kore-eda.
Formidable film,
formidable
au passage.
Et qui a réussi à réunir, dans les salles de cinéma françaises, plus de 800 000 spectateurs. Et ça, c'est unique au monde.
Ça fait partie de notre identité en tant que pays, d'être un grand pays de cinéma. On parle de l'auditorium Lumière, on parlait d'un dispositif qui s'appelle les Enfants des Lumières. On pense aux Frères Lumière, évidemment, mais aussi aux Lumières. Julien Neutre.
Pour revenir à François Truffaut qui a ouvert notre session, il disait « Chacun en France a deux métiers, le sien et critique de cinéma ». Je crois qu'on a tout ça en nous. En effet, il y a cet ADN-là et qu'il faut continuer. Et c'est notre enjeu au CNC, évidemment, de cultiver, d'enrichir, d'adapter à tous les usages, mais de continuer, évidemment, à faire que ce soit bien dans l'ADN français d'être un spectateur de cinéma.
Alors, je ne sais pas si vous regardez Game of Thrones, dont le tout dernier épisode sera diffusé demain, pour ceux qui le regarderont sur les chaînes payantes où il est diffusé. Et c'est une série qui est extrêmement commentée, à la fois sur les réseaux sociaux, mais dans la presse. Pour cette dernière saison, tous les grands quotidiens nationaux s'y sont mis. Et bah, vous dites, chaque Français est critique. Et là, on voit beaucoup de critiques et de théories, puisque c'est le grand jeu, fleurir. Mais aussi une analyse des images, extrêmement formelle, je trouve, et du langage des séries. Est-ce que finalement, la cinéphilie, ou une forme de cinéphilie, ne se serait pas réfugiée là? Julien Neutre, est-ce que vous voulez répondre pour commencer?
Évidemment qu'il y a des liens entre la série et le cinéma. D'ailleurs, nous, sur les sujets d'éducation à l'image, et Carole fait partie des personnes qui réfléchissent avec nous sur ces sujets, nous réfléchissons aussi à accueillir dans nos réflexions et dans les œuvres que l'on expose dans tous les dispositifs d'éducation à l'image, d'intégrer aussi des œuvres sérielles. C'est important aussi d'apprendre à lire ces images-là et d'aller chercher aussi les images que regardent les jeunes pour leur apprendre à les regarder aussi autrement et apprendre à avoir un regard critique, une distance et à savoir les comprendre.
Les jeunes et les moins jeunes, alors sur les œuvres sérielles, Carole Desbarra, et sur cet engouement en critique aussi qu'on a vu émerger et qu'on voit toujours exister sur ces œuvres qui sont aujourd'hui très 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 populaires.
Mais écoutez, ça pose la même question que le cinéma, d'une certaine manière. C'est trouver l'œuvre qui va être à la jonction entre le plaisir du lycéen, parce que là, on va peut-être plutôt parler de lycéen que d'enfant du primaire.
Et le...
Enfin, ça dépend quelle série. Et l'enseignant, de manière à ce qu'un dialogue soit possible. Mais je crois qu'en dehors de la difficulté intrinsèque, qui est qu'une série à minima, ça fait 6 heures, en dehors de ça, qui rend le visionnement intégral, mais on y réfléchit, on cherche des solutions. En dehors de ça, c'est le même travail que sur le cinéma, c'est-à-dire partir sur des objets de qualité, conçus comme des œuvres d'art, pas les mauvaises séries, les belles séries, qui peuvent intéresser les jeunes et leur proposer d'exercer leur sens critique là-dessus. C'est la raison pour laquelle une association comme la CAP, qui est une association qui travaille autour de l'éducation aux images, et en Picardie, voilà, vient de faire un petit manuel avec l'aide du CNC pour parler de comment est-ce qu'on peut transmettre le plaisir des séries et aider les jeunes à avoir une appropriation culturelle grande, aussi grande que lorsqu'ils voient une œuvre d'art littéraire ou bien au cinéma ou dans un musée.
Ah, mais je vais garder ce petit livre. Merci beaucoup, Carole Desbarra. Après tout, Laurent Cantet, des cinéastes français aussi, se frotte à l'écriture et à la réalisation de séries. Je pense à Éric Rochant et au Bureau des Légendes, une série extrêmement populaire aussi, qu'on ne conseille pas évidemment aux enfants d'école primaire, mais qui fonctionne avec un langage particulier, qui est celui des séries et qui est réalisé par des cinéastes. Il y a Pascal Ferrand aussi qui a participé à cette série. Est-ce que vous-même, cela vous intéresserait en tant que cinéaste?
Je suis en train de commencer à réfléchir à une série, mais qu'une série qui serait beaucoup plus documentaire certainement que le Bureau des Légendes. Et c'est vrai que je me confronte à un langage différent, c'est-à-dire que la durée crée une autre façon d'aborder l'écriture, que la multiplicité des personnages possibles crée aussi une façon différente de penser un récit, et que c'est tout ça que je découvre en ce moment et que ça me semble assez passionnant à regarder.
Alors comment vous apprenez, puisque nous parlons d'éducation et de transmission dans cette émission, comment vous formez? Est-ce qu'il faut regarder séries pour apprendre à en faire? Est-ce qu'il faut essayer?
J'en regarde quelques-unes. Je suis pas un sériphage, on dit. Je sais pas, quelqu'un qui est un adepte de la série. J'ai toujours l'impression que je vais regarder la série complète et puis au bout de 2 ou 3 épisodes, je zappe et du coup voilà, je suis pas encore un très très bon consommateur de séries, mais c'est vrai que il y en a un certain nombre que j'ai vu et qui me servent un petit peu de repère en ce moment pour penser l'écriture. Et puis après il y a le, je pense, l'expérimentation. On commence à écrire et puis on se rend compte que le même la fidélisation d'un spectateur implique aussi peut-être une autre façon de construire l'histoire. Voilà, tout ça, c'est ce que je découvre.
Écrire pour s'améliorer, c'est un peu comme dans le film L'Atelier avec Marina Foïs, où les jeunes gens écrivent pour apprendre à écrire. On n'a pas trouvé d'autres manières pour l'instant, ou en tout cas c'est la meilleure. Julien Neutre, sur la question du jeune public qui doit devenir aussi le public de demain, c'est ça aussi le travail du CNC finalement, dans l'éducation aux médias?
Bien sûr, oui, c'est évidemment une de nos missions qui passe par l'éducation à l'image, mais aussi évidemment par les salles elles-mêmes qui font ce travail-là au quotidien. Il faut rappeler encore l'importance de ce réseau-là sur tout le territoire. Et puis, évidemment, les salles ne peuvent pas tout, d'où la démultiplication, évidemment, de nos actions, y compris sur les réseaux sociaux.
Et c'est pour ça aussi que le CNC organise un prix de la jeunesse, le prix
Jean Renoir des lycéens,
voilà.
Ouais, qui chaque année donc est décerné par une cinquantaine de classes qui visionnent une sélection d'une dizaine de films et qui réalise des critiques autour de ces films. Donc on en parlait, donc des spectateurs actifs. C'est une première déjà, première pratique évidemment, l'écriture à partir du visionnage des films. Et c'est un moment très important d'ailleurs pour une œuvre. L'année dernière, donc c'était Hubert Charouel avec Petit Paysan qui a reçu le prix Jean Renoir des lycéens. Et vraiment, il y a eu un impact, évidemment, en termes de prescription aussi, parce que le film ressort dans certaines salles. Et surtout, il est diffusé ensuite dans les dispositifs dédiés aux lycéens. Donc il y a une prescription de lycéen à lycéen, de pair à pair, qui est très importante et qui offre une nouvelle vie à cette œuvre.
Et voilà qui me permet de parler d'un autre prix, notre prix à France Culture, qui est un prix étudiant. Alors, trois distinctions qui ont été remises aujourd'hui, dimanche. Une à Margaret Ménégoz, qui est la lauréate du prix France Culture. C'est une consécration pour l'ensemble de son œuvre. Un autre prix pour Laszlo Nemes, qui remporte le prix France Culture Cinéma des étudiants pour son film Sunset. Et enfin, un prix pour Jean-Paul Civera, qui lui remporte un prix international pour son prix mais provincial. Voilà, ça a déjà été annoncé sur la chaîne, mais dans cette émission consacrée au cinéma, nous devions de le dire. Je dois aussi vous parler d'un livre absolument formidable, sans grand film pour les petits. Il est signé Lydia et Nicolas Boukrieff. Il vous donnera des tas d'idées de films à voir avec vos enfants, mais les enfants peuvent aussi le lire eux-mêmes, des films de toutes les époques et de tous les styles. C'est absolument délicieux. On se plonge dans plein de souvenirs et puis on peut faire plein de projets de cinéma. Tout de suite, la dernière rubrique de l'émission, la leçon de choses. Abdellah Taïa est écrivain et réalisateur. Son œuvre raconte l'homosexualité, l'enfance, la pauvreté, la douleur de l'exil. Et dans cet entretien avec Sophie Bobert, il nous parle de la manière dont son enfance très pauvre, dans une famille nombreuse, influence encore aujourd'hui son écriture.
Mon enfance est passée dans un champ où il y avait encore des maisons qu'on était en train de construire. Mon père avait réussi à emprunter de l'argent à quelqu'un qui était important. Mon père travaillait à la Bibliothèque Générale de Rabat. C'était un tout petit fonctionnaire. On pourrait appeler ça le purée urbain, mais pour moi, c'était le début du monde. On n'était pas dans le centre et on était tous entassés, 11 personnes, dans une pièce.
Oui, vous dites 11 personnes parce que vous êtes issu d'une famille nombreuse. Vous êtes au numéro, je crois, 6 ou 7 de la famille.
Je suis le numéro 9.
Numéro 9,
on est 10, en comptant une demi-sœur qui n'a pas été élevée avec nous. Oui, on était entassés, mais ce n'est pas un entassage, si je peux dire, malheureux. C'était un entassage intense qui donne le goût, le sens de la vie pour toujours. C'était pas modeste, c'était la pauvreté même. Et parce que je me souviens que chaque jour, on se disputait, on se demandait ce qu'on allait manger. Et forcément, les ventres vides, quand il y a 11 ventres vides, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Il faut bien que quelqu'un se débrouille, se sacrifie. Et souvent, c'était la mère. Donc c'était plus que la modestie, c'était la pauvreté totale. Mais pour moi, c'était ça le monde. Alors pour certains, ça peut paraître très étrange qu'un être humain déclare autant de rapports passionnels avec des êtres les plus proches, les sœurs, la mère, le grand frère. Mais moi, je ne sais pas comment les autres font. J'avais ces modèles devant moi, les grandes sœurs, le grand frère. Donc je tirais, je volais tout ce que je pouvais d'eux. Je ne me sentais... Certes, j'étais le petit et que je n'étais pas bien considéré à l'échelle de la famille, mais je me disais, ils sont devant moi, je les trouvais aussi belles pour les sœurs que les stars de cinéma égyptien. Et mon grand frère, pour moi, il avait une moustache, donc c'était un dieu. Et donc je me disais, il est dieu, donc il faut bien que j'entre dans sa chambre et que je vole quelque chose. C'est ça ce qui me motive dès le départ. Comment je vais voler quelque chose?
Mais voler quoi?
Bah, je voulais les habits, je voulais la monnaie, je voulais, par exemple, quand ma mère me donnait trois petites mandarines à donner au grand frère, bah, j'en volais une. Mes sœurs, quand elles me demandaient d'aller leur acheter quelque chose, je faisais toujours attention qu'il me reste quelque chose. Donc j'étais déjà dans une négociation, manipulation avec la vie et avec la réalité. Je ne me contentais pas du tout de la subir parce que je voulais être là au milieu avec elle. Donc je ne connaissais même pas ce que ça veut dire la France, ni ce que ça veut dire la littérature. Ce que je connaissais, c'est cette pauvreté, ces sœurs, cette petite maison de rien du tout, et Peut-être l'élément extérieur, c'était ces films égyptiens qui passaient une fois par semaine à la télévision marocaine. Oum Kalthoum chante une chanson très célèbre où elle dit « Wa ma naylul matali bibi tamani » Ce n'est pas avec l'espoir qu'on arrive à se réaliser, mais c'est en menant le combat jusqu'au bout que quelque chose arrive. Je pense qu'on devient écrivain justement pour raconter les choses les plus sombres et les plus terribles, et c'est pour cela que la littérature sert à quelque chose. Donc quand moi je veux aller à Paris et je veux apprendre la langue française, je pense que c'est sur ce chemin-là de ma mère que je m'inscris. Comment je vais mener le combat à mon tour? Vous voyez, donc voilà, quand ma mère, vous me dites que ma mère apparaît tout le temps dans mes livres, je vois mal comment elle ne sortirait pas dans mes livres. Puisque le chemin que je suis et que je trace jusqu'à présent, il est exactement celui de ma mère. Le combat et la folie.
Mais elle était d'accord avec vous sur ce plan de carrière, sur ce rêve professionnel d'apprendre le français, de venir vivre à Paris, de passer le concours de l'école de cinéma. Elle vous a encouragé?
Non, ma mère, je n'existais pas pour ma mère. Sur l'échelle de 10 enfants, j'étais le 9e. Donc j'étais pas l'élément le plus important de la famille. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je m'accrochais à tous ces gens. Parce que pour moi, eux, ils avaient une certaine importance, ils avaient une source, ils avaient quelque chose de l'ordre du pouvoir et de l'amour que je voulais obtenir. C'était un ressort non pas pour devenir écrivain, mais c'était un ressort tout simplement pour survivre et je dirais pour se rapprocher des autres. Parce que c'est ça qui est étrange avec les rapports violents. Dans cette violence, il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement qui naît. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer psychanalytiquement, mais plus on a des rapports intenses avec les autres, plus on crie, plus on s'hystérise, plus on...
On est dans l'intime.
Oui, plus quelque chose de l'ordre de l'intérieur qui désire sortir. Et moi, j'ai vécu dans les cris. Et j'ai vécu dans ma mère qui parle du matin au soir. Donc, je vois mal comment, quand je me mets à écrire, je ne peux pas être dans cette influence-là. Alors, ça peut être de la grande violence qui vous écrase complètement, qui vous empêche d'exister plus tard. Pour ce qui me concerne, j'estime que j'ai réussi à m'en sortir et à sauver ma peau, mais ce n'est pas une raison pour tourner le dos à ces gens qui, eux, la subissent encore aujourd'hui.
Pas de feel-good book.
Non, je pense que j'arriverai jamais à écrire quelque chose de l'ordre du feel-good ou bien quelque chose de la positive attitude. Ce n'est absolument pas pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui fait que les gens, dans leurs négociations quotidiennes, arrivent quand même à survivre.
Et Abdella Taïa vient de publier La vie lente et c'est au seuil. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts et nous réécouter en ligne sur le site de franceculture.fr. Par exemple, je dois vous préciser que le livre dont j'ai parlé, Sans grand film pour les petits, est publié chez Grund et Arte Éditions. Enfin, dans notre prochain numéro, nous continuerons à parler d'éducation culturelle. Nous reviendrons sur la grande exposition au Musée d'Orsay, Le modèle noir de Jericho Amatis, et sur le travail et sur l'image de la représentation que le musée a proposé de faire à des élèves en parallèle à cette expo, une occasion de nous interroger sur la manière dont l'enseignement se saisit des questions de représentation et de mixité à l'école. Voilà pour le programme de la prochaine émission et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée à l'écoute de France Culture évidemment.